On a le plaisir de recevoir Fanny Alpignan, qui est assez difficile à présenter parce qu'elle est germaniste, pas psychanalyste, mais par moments elle est bien plus psychanalyste que les psychanalystes. Enfin, elle travaille une frontière étrange qui est les problèmes entre langues, les problèmes du traumatisme et des traces que ce traumatisme laisse. Et je dirais de leur traductibilité. Ce qui l'a amené aussi donc à travailler avec l'équipe des œuvres complètes de la traduction pour elle. Oui, asseyez-vous. Alors je dirais, elle a écrit plusieurs livres dont le premier est Ouvre-moi seulement les chemins d'harmonie. Ensuite, il y a eu l'intraduisible deuil, mémoire et transmission. La survivance d'abord. C'est parce que là, nos ratés, c'était pas moi qui se présentais, donc j'improvise vraiment. Mémoire du génocide arménien, qui là est un travail qui prend appui sur tout le cheminement de Janine Alpignan depuis maintenant plus d'un an, sur la traduction et la mise à disposition du public du journal écrit par son père quand il était. Jeune homme, adolescent, d'une certaine façon, pendant le traumatisme, pendant le génocide arménien, et le travail qu'elle a fait autour de ça, de restitution, de mise à jour de la mémoire. Et c'est un ouvrage collectif où a entre participé notre collègue Régine Traiteur, René Caes, Yolanda Gampel et quelques autres que je ne citerai pas là. Je dirais ce qui est intéressant, c'est que dans l'invitation de Janine Alpignan, il s'est passé une espèce de chassé-croisé. C'est d'un côté Françoise Nau et Régine Van Traiteur avaient envisagé de l'inviter dans le même temps où il y a Abdelwed, qui n'est pas là et on espère qu'il ne lui a rien arrivé. Et moi, on envisageait de l'inviter aussi. Et on a été pendant un moment dans un truc de concurrence, c'était tout à coup, mais comment...
C'est beaucoup dire.
Non, mais je dis concurrence parce que ce qui est intéressant, c'est concurrence au sens où je pense que ça donne une indication du type d'effet que suscite le travail de Janine. C'est-à-dire, quand on la lit, beaucoup de gens, d'origine et de réflexions différentes, se sentent concernés, trouvent, en la lisant, des mots, et je crois que c'est souvent ce qui était revenu, des mots qui donnent forme à des vécus sur lesquels ils n'avaient jusque-là pas réussi à mettre des mots, et que des collègues, je dirais, à la fois très proches, mais en même temps, je dirais, de formations, d'histoires très différentes, comme nous quatre, on ait pu avoir le même projet, et y compris avec ce moment d'indécision où elle se retrouvait une fois de plus entre deux groupes de personnes, et nous avons décidé que le plus simple c'était d'engager un débat chaleureux, convivial avec elle. Alors après avoir hésité, Janine nous a proposé, donc on va procéder comme ça, elle va nous faire une présentation de son travail, mais plutôt l'état de la question aujourd'hui pour elle, je crois, et puis après on engagera une discussion à bâton rompu en vous donnant aussi rapidement la parole. Sur cette fois, tu voulais ?
Non, je veux dire que peut-être que maintenant tu peux me...
Oui, je donne la parole, tout à fait.
Bon, écoutez, une petite erreur, mais c'est pas grave, je vais essayer de corriger ça. Donc, si vous voulez, après une brève présentation de mon parcours, j'ai compris qu'il valait mieux que je lise un texte que j'ai préparé pour vous. Je l'ai compris. Et puis après, nous aurons toutes sortes de discussions. Alors, je l'ai compris, à partir de ce qu'on vous a écrit sur l'argument, je vous relis donc les deux phrases qui ont été communiquées dans l'argument. Le travail d'élaboration et d'écriture que doit effectuer un descendant survivant cherche à inscrire dans l'histoire du monde ceux qui ont été effacés de leur propre histoire. Ça se trouve dans l'intraduisible, page 67, et l'autre, qui se trouve dans le même volume, page 69, entre la terreur du meurtre et l'affranchissement hors de son emprise, il faut donc que se creuse pour les générations suivantes l'interstice d'une fonction symbolisante. Alors, j'ai donc compris en lisant ces deux phrases qu'il fallait que je vous présente un texte qui, en gros, qui illustrerait pour vous ma manière d'écrire. Ça va prendre en gros 3 quarts d'heure, 50 minutes, et après nous discuterons. Alors pour ce qui est de la petite présentation de mon parcours, si vous voulez, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant prof d'allemand, ce qui a conduit mon parcours à m'intéressais beaucoup à aimer la langue de Freud et à tomber par hasard sur une équipe qui m'a engagée. Depuis 70, je travaille aux traductions sous la direction de Jean Laplanche. Mais l'autre secteur qui, moi, évidemment, qui, dans lequel je suis beaucoup plus impliquée, c'est que, étant d'origine arménienne, c'est-à-dire née en France, mais de parents survivants du génocide arménien de 1915, après un premier travail analytique, j'ai éprouvé le besoin d'écrire quelque chose, c'est-à-dire d'essayer de dire ce que je vivais quand j'étais enfant, ce qui fait que, bien que je sois en rapport avec beaucoup de psychanalystes, dont certains me demandent pourquoi je ne suis pas analyste, je dis, mais moi, mon propos n'est pas de soigner, sous-entendu de soigner les parents, puisque on m'a dit que les analystes fantasmatiquement soignaient leurs parents. Pour moi, le propos n'est pas de les soigner, mais de dire ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Et au-delà de mes parents, si vous voulez, tous ceux qui ont vécu des choses de ce genre, qui fourmillent hélas dans le monde. Donc, c'est à partir de 1975 que j'ai commencé à écrire, d'abord dans les temps modernes, dont la publication de ce texte de déportation de mon père, qui est sorti en 82, je vous dirai dans quelles circonstances, le texte dont a parlé François Villa. Et l'ensemble de ces articles, à chaque fois, je les ai retravaillés pour en faire des ouvrages. Bien, alors, avant de commencer mon travail, si vous voulez, mon texte, la réflexion que je vous apporterai, c'est que le trauma ne fait pas que... Enfin, les catastrophes de l'histoire, les meurtres de masse, ne font pas que détruire des êtres vivants, ils détruisent essentiellement des liens. Et que pour ceux qui survivent et leurs enfants, ce qui est vécu au départ, c'est qu'on n'est nulle part, on est sans lien. C'est-à-dire que les parents, leur histoire n'est pas visible. Et donc, ce qui s'impose à... Ce qui s'impose quand on a eu la chance, comme moi, d'aller à l'école, c'est d'essayer de créer des liens tout au long de sa vie, de s'institutionnaliser dans le pays d'accueil, en déplaçant en quelque sorte, si vous voulez, l'histoire traumatique dans le cadre du pays d'accueil. Je dis pays d'accueil pour l'histoire des Arméniens, qui ont eu la chance, si je puis dire, d'être en tant que survivants transférables ailleurs. Je dis ça parce qu'il y a des drames, comme par exemple des catastrophes de génocide, comme celui du Rwanda par exemple, où le déplacement n'est pas possible. Alors je me demande comment l'élaboration peut se faire. Donc pour moi, si vous voulez, toute mon écriture porte là-dessus, la création de liens, par le déplacement, par l'institutionnalisation dans l'institutionnalisation et le combat politique, évidemment, dans le cadre des pays d'accueil. Or, créer des liens, et là je vais bientôt avoir fini ma petite présentation, créer des liens, c'est en fait ouvrir de la distance, parce que dans l'expérience première, si vous voulez, d'une enfant de survivant, ce qui se vit, c'est un amalgame. Ce sont des relations fusionnelles ou des relations rejetantes qui se trouvent d'ailleurs bien décrites, je crois, dans les travaux de Racamier. Donc il faut créer de la distance pour créer du lien. Sans distance, il n'y a pas de lien. Et ce que j'ai essayé de théoriser, c'est que cette distanciation se fait, enfin c'est faite pour moi, d'abord par l'école du pays d'accueil. C'est une école que j'ai beaucoup aimée. Et tous mes livres en témoignent d'une certaine façon. Et dans mon exposé, cet aspect de mon travail ne paraîtra pas. Donc, créer de la distance par l'école, par le travail analytique évidemment, et par l'écriture, dans la mesure où l'incidence des événements culturelle et politique du pays d'accueil est possible. Je veux dire qu'il faut créer de la distance si les événements culturels et politiques se produise dans un pays suffisamment démocratique. Et ça, c'est une condition sine qua non, à mon avis, dans un pays fasciste, impossible d'élaborer le trauma et de l'écrire, me semble-t-il. Bien, alors donc voici cette présentation rapide, et voici un exemple d'écriture, si je puis dire. J'avais communiqué à mes collègues que mon texte s'appellerait « Porter en soi un trésor terrifiant ». Et alors, pour présenter l'expérience dont je vais rendre compte en tant qu'analysante, puisque j'écris en tant qu'analysante, j'aimerais attribuer à cette expérience un titre sous la forme d'un oxymoron qui s'énoncerait « L'amour particulier d'un trésor terrifiant ». Donc la première partie de mon exposé va essayer de montrer en quoi consiste cet amour d'une transmission portée en soi comme un trésor, alors que celui-ci est terrifiant. Ou encore, comment cette transmission peut bien représenter un trésor s'il est terrifiant. Dans la seconde partie, j'apporterai donc une illustration personnelle d'un exemple de dégagement hors de ce lien paradoxal. Je ne suis pas tout à fait optimiste. J'aurais souhaité aussi vous faire une remarque très importante, c'est que mon parcours, puisque je suis née en France en 1934, mon parcours s'est effectué à une époque où il existait cette école que j'ai tant aimée, qui s'appelle l'École de la République, qui est en voie de disparition actuellement, où la France était un pays d'intégration, ce qui est évidemment impossible maintenant. Et il m'arrive souvent de dire que mon témoignage est en fait caduque, parce qu'il ne peut pas se réaliser maintenant. Et c'est en fait une interrogation, s'il ne peut pas se réaliser dans ces termes, comment peut-il se réaliser? C'est une interrogation, une question que je vous pose. Donc, alors, une première réponse à ces questions concernant qu'est-ce que c'est que cet amour d'un trésor qui est terrifiant serait que les descendants d'un meurtre collectif dans l'histoire ne peuvent commencer à symboliser ce qu'ils en ont reçu en héritage au pays d'accueil où ont échoué leurs parents survivants qu'à la seconde, troisième génération, notamment lorsque la temporalité de la latence rend possible en eux la formation d'une enveloppe psychique réceptrice des morts sans sépulture qu'ils sont en mesure alors seulement de penser et d'aimer sans crainte de se voir engloutis en eux. Et voici par exemple Gérard Chalian dont le titre dans le livre « Mémoire de ma mémoire » est un titre à redoublement et qui indique bien cette enveloppe. C'est un homme qui, jusqu'à ce livre de 2003, n'avait publié que des ouvrages de géopolitique. Et voilà ce qu'il écrit pour bien montrer, je dirais, cet enveloppement protecteur en deux temps. Maintenant que tout le monde est mort, il est temps de se souvenir. Je suis bon gré mal gré, héritier d'un peuple massacré, d'un pays à peu près aboli sur les cartes. Maintenant que tout le monde est mort, depuis longtemps déjà, et que ma fin elle-même n'est point si lointaine, ce qui est aussi un petit peu mon cas, il est grand temps de rappeler ce meurtre collectif. Alors voici en effet comment je pourrais me représenter le temps à l'œuvre dans la constitution de cette enveloppe psychique. Les morts naturelles, celles qui sont localisées dans le temps et l'espace du pays d'accueil. Alors morts naturelles puisque ce génocide a eu lieu en 1915, donc la plupart des survivants sont plus ou moins morts. Quelques-uns sont encore vivants, mais voyez, à un âge très très avancé. Donc, leur mort naturelle, localisée dans le temps et l'espace du pays d'accueil, qui, apparemment à l'abri des violences de l'histoire, bénéficie maintenant d'une sépulture, ces morts-là viennent en quelque sorte clore l'espace béant des mises à mort terrifiantes dans le nu par des déserts anatoliens. Ces morts libèrent en même temps, chez les descendants des survivants, l'affect d'un amour particulier lié à cette douleur qui s'installe en eux, maintenant que tout le monde est mort. C'est-à-dire, maintenant que les défunts d'ici les protègent des morts de là-bas. Au terme de cette double traversée, du règne de la terreur aux indigences de la survie, puis de vie après pas, ces disparus de fraîche date leur font don d'un espace et d'un temps de vie à l'écart des violences. Ainsi, la temporalité des générations bascule et passe des derniers survivants qui naquirent encore là-bas aux enfants qu'ils ont fait naître ici et qu'ils délaissent désormais en s'éteignant. Pour éclairer quelque peu la nature de cette douleur qui se fait douce et lancinante en ceux qui sont devenus à présent des orphelins, je dirais que ces derniers sont dorénavant privés de la butée que constituait l'incarnation de l'histoire de ces apatrides demeurés en vie. Les gestes, les voix, les plaintes ressassantes ou le silence pesant des parents dont ils avaient été entourés élevaient autrefois un rempart entre l'inouï des terreurs auxquelles ils avaient survécu et leurs propres efforts pour se séparer des porteurs de ces vécus terrifiants, pour s'éloigner de leurs échos. Or, cette présence corporelle des représentants familiaux, le cadre de leur vie en somme, leur avait permis de refouler ce dont cette présence même témoignait implicitement. Et afin de rester fidèles à l'entreprise parentale de sauvetage, les enfants avaient dû la poursuivre en se faisant une place au pays d'accueil ou défiant la mort qui l'habitait. Cette génération leur avait donné vie. Alors, poursuivre l'entreprise parentale, ça veut dire justement aller à l'école, s'institutionnaliser, faire des études évidemment. Et mon parcours est une illustration de cela. La douleur actuelle des héritiers provient de ce que butée et rempart s'étant effondrés, ils ne peuvent plus d'une place d'enfant se distancer de ces balises pour construire leurs propres alliances entre un héritage accablant, un combat politique visant à en témoigner et les divers plaisirs à vivre d'un Occident démocratique aux séductions palissantes. Alors, quand je parle du combat politique, vous êtes sans doute certains au courant de toutes les péripéties que les Arméniens doivent vivre pour faire reconnaître ce génocide en tant que génocide. Les survivants ne sont plus à leur côté, autour d'eux, mais dorénavant en eux, qui se voient désormais contraints de s'approprier enfin ce qui leur a été transmis. Cessant d'être persécutés par des pertes sans deuil possible, les héritiers ont encore à faire le deuil de cet amour impuissant qu'ils avaient secrètement nourri à ces porteurs de leur appartenance en essayant de les protéger de leur passé. Je reviens à Chalion qui écrit « J'ai longtemps détesté ces visages de vieilles, vêtus de noir, ressassant un passé de désastre. Aujourd'hui, je revois les vieilles de mon enfance toujours vêtues de noir, les yeux secs désormais, rivés sur un deuil aux cendres encore vives. Cercle des vieilles égrénant leur douleur, cœur muet de l'impossible oubli. » Alors si dans ces lignes on entend céder la réaction de défense d'une sensibilité masculine, je constate pour ma part que mes livres sur la transmission s'ouvrent tous, comme par hasard, sur le souvenir explicite ou implicite d'une grand-mère à l'ouvrage. À l'ouvrage d'une vie respectant obstinément les traditions du pays. Puisque ces rescapés ont pu survivre, nous ne pouvons que faire parler aux autres leur voix muette, déposée en nous, en trésor certes terrifiant, mais à déchiffrer quant à leur teneur en talisman de vie. Leurs paroles, qui au cours de la cure, remontent à notre mémoire, sont emblématiques de ce que fut le survivre pour cette génération désormais disparue. Ils survécurent, aussi bien à la monstruosité d'expériences inénarrables, qu'à l'extrême misère de leurs jours en quête d'une intégration au pays d'accueil. Leur jugement, et parfois même leur jovialité, ont alimenté le bain sonore où se transmettaient implicitement leurs valeurs, dont les retentissements éveillent en nous tendresse, vénération et dictent inconsciemment nos comportements. Du fond de notre mémoire sensorielle surgissent dans l'espace transférentiel cet amour d'enfant que nous ignorions avoir si profondément ressenti en eux, cette tendre sollicitude que nous ne nous étions sans doute jamais autorisés à reconnaître, quand, impuissants, nous avions peur d'en être écrasés et encombrés dans notre fuite en avant. Parvenus par leur disparition à l'âge adulte, nous pouvons, à présent, accueillir cette compassion après coup, faire nôtre ce trésor de soins chaleureux et de douleurs muettes. Nos larmes expriment le bonheur de pouvoir nous abandonner enfin à l'amour de ceux qui nous ont entourés de leur présence, sans la crainte d'être paralysés par le poids de leur monstrueux destin déposé en nous. Alors, je ferai une petite parenthèse pour vous dire que, bien évidemment, cette écriture qui parle du trésor terrifiant et au trésor que l'on aime, est évidemment le résultat d'un travail analytique que j'ai essayé de transcrire par écrit. Loin d'idéaliser des relations déchirées par les contre-coups des enfances manquantes, loin d'oublier les blessures infligées par des êtres non narcissisants, car non narcissisés, on peut dire que l'analysant met à profit l'espace transférentiel et la temporalité de la cure pour déchiffrer l'oxymoron de cet amour énigmatique qui pourrait se nommer donc amour d'un trésor terrifiant. Un lien paradoxal qui caractérise le rapport de tout descendant des meurtres de masse à son héritage familial traumatisant. Ma grande reconnaissance vis-à-vis de la psychanalyse, notamment du ou des deux psychanalystes que j'ai eus, s'adresse au fait que la psychanalyse rend possible une narcissisation permettant justement d'assumer une non-conformité au modèle œdipien. Je m'avance là. Bien évidemment, l'Œdipe joue un certain rôle, ne serait-ce que dans ce refus de cet héritage au départ. Mais il n'y a pas que l'Œdipe qui fonctionne dans ces héritages-là. Il y a autre chose. Ce que j'appellerais le dialogue analytique réside avant tout en l'édification d'une sorte de pont entre la réalité interne du descendant, que celui-ci vit comme intraduisible, et les mots de l'analyste qu'il ressent dans son mode de transfert comme ne pouvant pas le comprendre. Mais, à la différence de la maison familiale où la question de comprendre l'autre ne veut strictement rien dire, c'est une question de luxe, si cet autre étranger qu'est l'analyste est ici censé ne pas le comprendre, il est du moins à l'écoute de cet univers fou, chaotique, une maison familiale à la fois chaleureuse et asphyxiante, des parents à la fois mortifères et porteurs de valeurs constitutives, une enfance à la fois surprotégée et cruellement esselée. C'est la construction de ce pont fragile, mais si existant, qui par exemple lui permettra d'écrire avec le sentiment que bien que non conforme, il peut circuler chez les névrosés normaux et se réjouir des échanges qu'il entretient avec eux. Là, je pense qu'il y a une petite allusion aux paroles de François Villa qui vous disait que mon travail était finalement atypique, mais bien qu'atypique, ben, je circule bien. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, trois témoignages serviront ici à rapprocher cette forme particulière du lien aux parents, de leur vivant, et l'impossible amour d'un trésor terrifiant, éprouvé à ce moment-là à leur disparition. Ces trois témoignages donnent à sentir la teneur de cette transmission aux enfants, une transmission précieuse mais chargée de terreur, silencieuse, non verbalisée, non verbalisable. D'abord, celui d'un écrivain, Aaron Appelfeld, que vous connaissez sans doute, suivi de celui d'un journaliste, Jean Kéaillan. Tous deux, le premier survivant de la Shoah, le second, fils de survivants du génocide arménien, parle en effet de ce lien douloureux qui noue parents et enfants sous terreur et qui marque d'une empreinte indélébile ce qui fut transmis aux héritiers. Une vie affective qui se constitue de cet inconfortable alliage du tendre attachement aux parents ou à la famille d'appartenance et du savoir partagé sur ce qu'est vivre ces jours sous menace de mort. Ce savoir intime, transmis par l'expérience parentale, semble d'ailleurs séparer irrémédiablement les survivants et leurs descendants du reste du monde demeuré indifférent, voire complice ou impuissant face au pouvoir exterminateur, car l'effroi traumatique non éprouvé par le sujet expulsé lors de l'effraction, traverse souvent les générations de descendants en creusant en eux un écart, une inhibition du contact spontané avec ceux qui paraissent ignorer cet envers du monde. Je ferai ici allusion, je reviendrai sur le début de ma présentation quand je disais que ce qui importait pour essayer d'élaborer le trauma, c'est de créer des liens, c'est que tous les génocides et les meurtres de masse se font parce que le tiers s'absente, ne dit rien. Ne dit rien pour des raisons évidemment de diplomatie, pour des raisons d'intérêt économique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, actuellement, les États-Unis, Obama ne peut pas appeler génocide un génocide, alors qu'il l'a promis au moment de la campagne électorale. Mais c'est ce qui se passe au moment même où les génocides ont lieu. Certains d'entre nous, en particulier Jules Weintraeter, pourra apporter des exemples concernant le Rwanda. Et au moment évidemment du génocide arménien, tous les ambassadeurs savaient ce qui se passait et les tiers se sont tus. Donc l'expérience d'être sans lien est une expérience qui se trouve au départ du trauma. Donc il s'agit pour les descendants de créer des liens qui sont évidemment scandaleux, parce que contraires évidemment aux intérêts diplomatiques. Alors voilà ce qu'écrit Appelfeld. À cause de cette terreur prolongée pendant tant d'années, chacun de nos sentiments, chacune de nos pensées passa par la fournaise raffinée de la souffrance. Une telle souffrance ne fut pas le lot des enfants, bien qu'ils l'aient absorbée aveuglément par toutes leurs cellules, comme seuls les enfants peuvent absorber les choses. Dans cette confusion, il n'y avait pas de place pour les mots et les questions. Ils apprirent donc très vite à ne pas demander. Les expressions silencieuses leur apprirent comment emprisonner la peur. Comment sauver les enfants ? Nous étions le sens de leur vie. Déjà à cette époque, à la hâte, dans la fuite, alors que nous voyions comment ils se sacrifiaient pour chercher un refuge, nous mettre en sécurité, nous sûmes que, dans leur auto-sacrifice, au bord de l'abîme, ils nous léguaient non seulement la vie, mais la signification ultime de leur propre existence. Et c'est ce poids, évidemment, qui pèse sur les héritiers. Alors voici Jean Kéaillan, c'est un journaliste qui vit, donc d'origine arménienne, qui vit à Marseille, vous allez voir pourquoi. Nos parents, pénétrés par la mort, inspiraient naturellement le silence. Surtout pas de questions. Nos jours et nos nuits se teintaient toujours de noir. Des récits de terreur à n'en plus finir. L'impossible à transmettre que ces litanies de peur et de souffrance devant lesquelles nous n'avions pas le droit de nous révolter. Les morts vivants peuvent-ils penser au destin des enfants ? Je n'ai pas encore la réponse, tellement la culture de la mémoire, par tous les moyens, me semble vitale. Il suffit de remonter la rue de ma Little Armenia marseillaise. Chaque porte, chaque père, chaque mère colporte son histoire. Par cette obstination orale, ils ont réussi à garder la mémoire des suppliciés de Kars, des enterrés vivants d'Erzurum. Ils ont perpétué l'histoire de la solution finale dans le désert de Derzor, en Syrie, où l'on violait les mères et les sœurs, où l'on étripait les nourrissons. Nous ne nous sentions pas étrangers, mais plutôt d'étranges inconnus, porteur d'un secret intransmissible. Je suis en train de me dire que puisque là il y a des villes qui ont été nommées, on pourrait peut-être faire circuler des cartes. Je vais faire circuler les trois livres qui ont des cartes à la page en question. Attendez-moi. Alors voici. Voici la première carte. Il va y avoir une autre là. Oui, là, si vous l'ouvrez.
Page 96, là.
Oui, alors, voilà. Voici là, une deuxième carte. La sœur Ivan, c'est la carte. C'est 84-85. Voilà. Et dans l'intraduisible, il doit y en avoir une aussi, mais je n'ai pas le temps de chercher.
Ça va.
Ça fait trois livres. Alors, je vous ai lu un témoignage d'Aaron Appelfeld. Je vais vous lire maintenant le témoignage d'un cinéaste qui parle également, enfin qui restitue une scène de survivant de la Shoah. Et ceci pour vous dire que dans mes différents textes, je ne parle pas que des Arméniens, évidemment, loin de là. Je parle de beaucoup d'autres choses. Alors, ce troisième témoignage sera celui d'un cinéaste, Emmanuel Fintiel, qui, dans un épisode étrangement bouleversant de son film Voyage, exprime de façon apparemment plus discrète cet affect en double lien. Nous assistons à une fête de retrouvailles entre hommes et femmes rescapés de la Shoah, qui, dans une ambiance commémorative, se réjouissent probablement d'être restés en vie, d'être réunis et de se revoir. Ils semblent être ensemble pour se parler, manger et boire, danser même, comme s'ils appartenaient à une association locale d'anciens combattants qui se seraient rencontrés pour s'adonner aux souvenirs rajeunissants de leur passé. Pourquoi sommes-nous si bouleversés ? Pourquoi j'ai été si bouleversée par un tel moment ? Tout compte fait, le seul joyeux de ce film éprouvant. Sans doute, parce que la tonalité festive de ces comportements implicitement codés, qui cherchent à étouffer les traces des terreurs inoubliées, révèle brusquement en nous les perceptions enfouies de semblables commémorations que nous avons bien connues enfants, lorsque blottis dans la chaleur particulière de notre abri familial, nous en ressentions pourtant l'insondable angoisse. Cette séquence constitue comme une métaphore de la douloureuse joie de vivre transmise aux descendants des victimes, que ceux-ci se doivent, avant tout et durant toute leur vie, déchiffrer, dénouer, libérer de cet amalgame émotionnel explosif pour pouvoir en y puisant extraire leur rapport singulier à leur propre destin. Alors j'aborde maintenant la seconde partie qui est un exemple, enfin qui est mon exemple de sortie, de dégagement ou d'essai de dégagement de cet amalgame. Alors ce fut pour moi la temporalité d'une historicisation en interaction avec des événements politiques, et j'insiste beaucoup là-dessus, qui permet un tel lien paradoxal de se dégager de sa gangue émotionnelle et de son enquistement silencieux. En effet, une telle subjectivation au long cours n'est pas tributaire du seul travail intrapsychique. Elle se trouve favorisée ou entravée par les conditions sociopolitiques que le lieu de vie des héritiers est en mesure ou non d'offrir à ses propres citoyens. On n'ignore pas combien ces conditions sont compromises par la crise actuelle de ses fonctions de cadre et de garant que devrait assurer le champ socio-culturel des pays d'accueil sur lequel s'étaye nécessairement toute transmission. Pour me construire un avenir provisoirement à l'abri des atmosphères aliénantes que je viens d'évoquer, j'avais donc comme oublié quelques années ces récits terrorisants, sans doute naïvement relégué dans un dossier de mon héritage à traiter plus tard. Il fallait faire des études, avoir un métier, avoir des enfants, etc. Se marier, donc. À mon époque, on se mariait. Pourtant, je n'étais pas sans avoir entendu l'évocation par ma mère d'un écrit paternel dont la simple existence me faisait peur. À elle aussi, il lui faisait probablement peur, car elle l'avait mentionné avec une certaine méfiance. Tout cela était dangereux. On avait beaucoup, beaucoup souffert et tout perdu. Les écrits ne servaient à rien. Puisque mon cas personnel n'est à prendre qu'à titre d'exemple pour tout Arménien de la diaspora et au-delà pour les héritiers d'autres histoires terrifiantes dont les objets de mémoire ou les souvenirs de traces initialement muettes traverse un long temps avant d'être conscientisé, je mentionnerai rapidement le compte-rendu des aventures inattendues que ce journal de déportation connut jusqu'à sa publication, c'est-à-dire son entrée dans ma vie consciente, la naissance en moi du désir de l'affronter, donc de le faire traduire, puis de l'expulser hors de l'espace du secret familial. Ces quatre étapes esquissent en somme le destin d'un tel héritage qui trouva son inscription psychique tardive à la faveur du scandale d'un événement politique parisien en septembre 1981. L'évitement qui fut en effet mon premier rapport à ce legs explosif, prudemment refusé hors de mon quotidien, s'apparente au non-événement évoqué par le psychanalyste Claude Jeannin, qui a écrit un livre très intéressant sur le traumatisme. L'événement traumatique, écrit-il, est un non-événement, un quelque chose qui ne se produit pas. Le premier temps du traumatisme, c'est le noyau froid du traumatisme, non assimilé par le moi. Fin de citation. Or, lors d'une transmission traumatique subissant de surcroît l'emprise d'un déni politique de l'état criminel et des états qui le cautionnent, certains événements peuvent justement déclencher une remise en mémoire, une introjection à l'intérieur du sujet d'un savoir qui en apparence ne l'impliquait pas et demeurait jusque-là sous séquestre en une sorte de mémoire blanche. Il convient de rappeler ici qu'au départ du destin générationnel de l'héritier d'une telle transmission, il y a ce que René Caës qualifie de, je le cite, « drame catastrophique » qui reste en défaut d'énoncé et d'abord de représentation, parce que les lieux et les fonctions psychiques et transsubjectives où ils pourraient se constituer et se signifier ont été abolis. Donc, figé depuis toujours en connaissance inopérante, à savoir à proprement parler hors sujet à tous les sens du mot, semé subitement lors d'un événement politico-culturel dans le champ public, c'est-à-dire un changement brutal dans l'environnement du sujet citoyen, en sorte le cadre de sa présence au monde des autres, se met à parler à l'intérieur de lui en investissant enfin sa vie psychique. Cette brusque levée du clivage peut d'ailleurs entraîner une décompensation qui le précipite chez un psychanalyste. C'est ce qui s'est passé pour moi qui m'a obligé à faire une seconde analyse. L'éruption dans l'espace collectif d'une violence gelée qui s'ignorait en lui. L'inquiétante familiarité de cette violence externe avec celle de son monde interne lui rend possible, à la faveur de cette duplication distanciatrice, de s'approprier sa propre violence, de s'en souvenir en la ressentant. Cette violence qui répète la sienne, mais médiatisée dès lors par des protagonistes tiers et non emprisonnée en ses propres agirs hors remémoration. Alors je fais allusion ici à l'article de Freud, remémoration, perlaboration, répétition. Ça commence par
Rémunération,
perlaboration, voilà. Alors, vous allez voir parce que je cite à un moment donné cet article. Donc cette violence qui répète la sienne, mais médiatisée dès lors par des protagonistes tiers et non emprisonnée en ses propres agirs hors remémoration, lui permet, grâce à cet ajournement protecteur, de se poser enfin la question de sa métabolisation. Ce type de remémoration vient remplacer la répétition, non en la supprimant comme ce que Freud souhaite à son patient dans cet article, mais en en prenant le relais, en procédant d'elle en quelque sorte par identification projective. Cette répétition remémorante se produisit donc en moi lors de l'irruption dans l'espace collectif du lieu de l'exil des parents, d'une violence paralysée jusque-là, et grâce au différé de cet après-coup, il me fut possible de penser que j'avais bien connaissance, moi, d'un document brûlant à ce sujet. Sans l'introduction brutale de cette question dans les actualités du pays d'accueil où je vivais, je n'y aurais sans doute pas pensé, ni n'aurais pu me représenter une position active face à ce document qui m'interrogeait et m'incitait à en faire quelque chose. Je vous rappelle ce qu'écrit Freud, lorsque le patient parle de cet oublié, il manque rarement d'ajouter « je l'ai à vrai dire toujours su, simplement je n'y ai pas pensé ». Donc évoquant plus haut que la catastrophe ne pouvait se représenter ni se signifier puisqu'avaient été détruits les lieux et les fonctions psychiques et transsubjectives nécessaires à la constitution de son énoncé, René Caës ajoutait « leur disparition, c'est-à-dire la disparition des fonctions psychiques et transsubjectives, leur disparition est en soi un surplus traumatique ». Si la publication en 1982 de ce manuscrit paternel contribua pour moi à une subjectivation aussi bien de mon histoire que de celle après coup de son narrateur, son destin se joua en fait au moment où cet événement politique parisien de septembre 81, une prise d'otage au consulat de Turquie vint réveiller en moi la réminiscence d'un souvenir d'enfance. Avant de décrire les différents moments d'épiphanie de ce manuscrit, je m'arrêterai donc sur la rencontre qui décida de cette première publication. Cette rencontre, notamment celle d'un fait objectif d'actualité, avec la trace psychique d'une parole autrefois entendue, vint confirmer la temporalité transgénérationnelle de la résistance, c'est-à-dire l'influence capitale qu'exerce tout autant l'actualité d'événements contemporains sur le processus de transmission d'un héritage, qu'une conception féconde de l'inconscient, selon laquelle, pour reprendre Caes, rien ne peut être aboli qu'il apparaisse quelques générations après, comme signe même de ce qui n'a pu être transmis dans l'ordre symbolique. La lettre parvient toujours à son destinataire, même s'il n'a pas été constitué comme tel par le destinateur. La trace suit son chemin à travers les autres, jusqu'à ce qu'un destinataire se reconnaisse comme tel. Ainsi, lorsque cet acte terroriste éclata dans l'espace politique parisien, amorçant en tant qu'acte de résistance ce qu'on a appelé le terrorisme publicitaire, lorsqu'il rompit dans ce qui était mon pays, un silence de plus d'un demi-siècle sur le génocide arménien, et interrogea alors un silence levé en moi, je sentis subitement que mon père aurait approuvé cet acte s'il avait été accompli de son vivant. Je retrouvais en effet dans ma mémoire diffuse le souvenir très lointain du plaisir de résistant avec lequel cet homme racontait à ses amis la prise en 1896 de la banque ottomane à Constantinople. Alors, il y a eu avant le génocide de 1915 des massacres très importants sous le règne du sultan Abdulhamid qui a été dénommé le sultan noir ou je pense, le sultan rouge je crois. Et pour alerter les puissances européennes qui avaient évidemment leur fonds dans la banque ottomane, un certain nombre de résistants ont pris d'assaut la banque ottomane. Alors je dois vous dire que ce souvenir de mon père racontant ça, c'est pour vous montrer combien la transmission met du temps, mais est arrivée récemment, c'est-à-dire après la sortie, après l'écriture de ce que j'avais écrit dans ce livre qui est sorti en avril 2009. Je me suis dit, mais dans le fond, il y avait eu cet épisode, ça m'est revenu maintenant. Donc voilà, je reprends. Je retrouvais en effet dans ma mémoire diffuse le souvenir très lointain du plaisir de résistant avec lequel mon père racontait à ses amis la prise en 1896 de la banque ottomane à Constantinople. M'identifiant spontanément à la satisfaction avec laquelle il évoquait cet exploit dont il était fier, je me sentis alors le droit de sortir de sa clandestinité protectrice cette relique que j'avais découverte. Alors, pour vous expliquer la surimposition de la mémoire, bien évidemment, quand j'ai publié ce texte, je me suis rappelé que mon père aurait été content. Mais c'est récemment que ce plaisir du père, je l'ai retrouvé dans ce souvenir, évidemment, un souvenir écran, d'un père racontant la prise de la banque ottomane. Et alors là, je trouve que cette superposition temporelle d'un événement de 1981, réveillant le souvenir d'un récit paternel qui commémorait un événement de 1896, fait penser au rendez-vous, je parlais de rendez-vous tout à l'heure, que le philosophe Walter Benjamin souligne entre les générations passées et la nôtre. Dans ses réflexions sur le concept d'histoire, il développe notamment l'idée parente de la conception freudienne de l'après-coup, selon laquelle le temps de la vie et le développement de l'être humain ne font que déployer, mettre au jour des points nodaux du passé qui contenaient déjà en eux tous ces éléments existants en germe. Il écrit : les voix auxquelles nous prêtons l'oreille n'apportent-elles pas un écho de voix désormais éteintes? S'il en est ainsi, alors il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Alors, quelques éléments pour de conclusion pour, sur mon travail d'écriture, qui n'a été depuis bien des années qu'une tentative de réception et de transmission de ce récit paternel en tant que paradigme des innombrables témoignages souvent plus insoutenables de son histoire. Ce récit dessine un trajet, ce parcours, un trajet qui va des violences politiques à la douleur de leur mise en mémoire psychique et textuelle. Je n'ai pu toutefois aborder le commentaire de ce journal, puis en faire le centre d'un ouvrage, l'intraduisible, que 20 ans après sa première lecture. Et c'est donc 31 années que j'ai pu l'insérer en fac-similé dans ce dernier ouvrage de 2009, qui est un ouvrage collectif, c'est-à-dire un ouvrage où il est reçu non seulement par moi, mais par d'autres personnes, donc entre autres Régine Vintrater, René Caes, Jean-François Quintaretto, etc. Yolanda Gampel, dont on vous a cité. Alors je vais vous lire rapidement un petit extrait pour que vous ayez une idée de ce que contient ce journal, dont je précise d'ailleurs qu'il n'est pas insoutenable. J'ai lu d'autres récits horribles que je ne me permettrai pas de lire publiquement. Celui-là, je l'ai vécu d'ailleurs comme j'étais enfant, quand j'étais enfant, quand mon père racontait ça à ses amis, parce qu'à moi il ne racontait rien, mais je l'ai vécu un peu comme une aventure dont il était sorti vivant. Donc voici. À Amman, nous avons constaté, bon, il écrit ça donc peu de temps à son arrivée en France, il a donc 19 ans, c'est un homme qui n'a pas beaucoup été à l'école. Il l'écrit en langue turque, puisque la plupart des Arméniens de l'Empire ottoman étaient turcophones. Il l'écrit en langue turque, mais en écriture arménienne. Voilà, donc, à Amman, nous avons constaté que les gens mangeaient des sauterelles, des mourants, des morts partout. Mon père était très malade, bientôt il n'y a plus eu de sauterelles, car tout le monde en avait mangé. Et la déportation n'en finissait pas. Comme j'ai fait énormément de coupures dans ce texte, il a un côté très haché. Ma mère a dit « Notre malade est très gravement atteint et partira la prochaine fois. »« Vous osez parler ?» a dit un gendarme et il a frappé à la tête de mon père. Ma mère suppliait qu'on la frappe elle et qu'on laisse mon père. Sur ce, le gendarme a frappé ma mère. 6 jours plus tard, le jour de la mort de mon père, la mort du père n'est pas du tout décrite, il n'y a que cette phrase. 6 jours plus tard, le jour de la mort de mon père, ils ont de nouveau déporté. Ils frappaient notre mère. Nous deux frères, nous pleurions, lui et le frère plus jeune. Nous ne pouvions rien faire car ils étaient comme une meute de chiens. Ils disaient à ma mère, ton malade est mort, et ma mère, nous partirons quand nous aurons enterré le mort. Ils répliquaient, non, vous ferez comme les autres. Les autres abandonnaient les morts, et la nuit, les chacals les dévoraient. J'ai vu que ça n'allait pas. Bon, il s'agit d'un petit garçon de 14 ans. J'ai vu que ça n'allait pas et qu'il fallait faire quelque chose. J'ai pris un flacon de 75 dirhems, je l'ai rempli d'huile de rose et je suis allé voir le chef des gendarmes de la déportation. L'huile de rose que cultivait, enfin les roses que cultivait ce grand-père. Ah oui, excusez-moi. Le grand-père cultivait des roses et faisait de l'essence de rose qui apparemment était très prisée puisque le chef des gendarmes de la déportation l'a accepté. Nous sommes, bon, vous savez, c'est très simple, il fallait avoir quelque chose pour l'échanger contre des heures de vie. Alors, dans ce journal, on voit qu'il y a des objets, de la nourriture, après on échange l'huile de rose, après il ne reste plus rien. Donc, il ne reste plus rien à échanger. Nous sommes restés encore un jour, nous avons creusé une fosse et nous avons payé 5 piastres au curé. Ainsi, nous avons enterré mon père. 15 jours après, la déportation a recommencé. Il brûlait tout. Je me suis cachée là car j'ai su que plus loin il tuait les gens. On avait très faim et soif. J'ai vu que nous allions mourir de faim. À Raqqa, on nous a montré une auberge. qu'avons-nous vu? Les gens mouraient partout de faim, on ne pouvait pas rester à l'intérieur, tout sentait la pourriture. On n'avait pas d'argent, c'est pourquoi on a commencé à manger des herbes. On a vu qu'on allait mourir, on faisait à peine deux pas et on tombait par terre. Ma mère a dit, elle a réfléchi, elle a dit, « Moi, pour mourir, je mourrai. Vous, il ne le faut pas. » C'est ainsi qu'elle nous a donné, nous deux, aux Arabes. Il a vécu un certain temps auprès de Bédouins qui se sont bien occupés de lui. C'est pour ça qu'il y a un côté western dans ce récit. Ça s'est bien passé, je suis une personne très chanceuse. Par ses effets d'après-coup, donc, cette publication inaugura mon investissement d'une configuration particulière d'écriture, déférée d'une génération, où le survivant d'une catastrophe collective, interdit d'avenir, ne peut toutefois advenir, s'écrire et témoigner de la terreur qu'il a, lui, traversée, que sous le couvert et par le truchement d'une écriture transférée à son descendant. À ces êtres écrasés par des expériences non subjectivables, seul cet autre familier, qu'est leur héritier, peut apporter avec l'enveloppe de son écrit un contenant psychique aux faits terrorisants qu'ils ont vécus. C'est ici le holding de l'écriture, substitut d'un holding absent en son temps, qui retransitionnalise la parole de ces êtres en défaut d'eux-mêmes, qui l'historicisent par cet avènement dans leur métaphorique du discours. Alors que les récits des survivants, incapables d'assumer la réalité des faits, incapables d'assumer la réalité psychique de ce qu'ils racontent, restituent la seule réalité matérielle des faits, comme vous l'avez entendu, le traducteur de parents en faillite, défiant une conception positiviste de l'histoire, opère la secrète violence de les inscrire dans une subjectivité, la sienne, et partant celle de ses lecteurs. Il se livre à la tâche non seulement restitutrice, mais avant tout créatrice, que Michelet assignait aux historiens quand il écrivait « Entendre les mots qui ne furent dits jamais » qui restèrent au fond des cœurs. Fouillez le vôtre, ils y sont. C'est bien cette injonction qui insuffle à l'écrivain Appelfeld la peur que le passé de terreur qu'il a partagé avec ses parents pourrait tomber dans l'oubli. Il écrit « Durant les dernières vacances d'été, nous avions arpenté ces montagnes et ces plaines avec une nostalgie terrifiée. La vieille peur que l'histoire de nos vies, la mienne, et l'histoire des vies de nos parents et des parents de nos parents ne soient ensevelies sans qu'il en demeure aucun souvenir, cette peur me faisait parfois trembler la nuit. » C'est donc sous l'effet d'une semblable injonction que le trésor d'un témoignage paternel terrifiant devint pourtant pour moi, au dénouement de l'investigation et de l'écriture, un bon objet interne, susceptible d'être porté en soi, aimé, voire de constituer par le présent travail une médiation entre moi et mes semblables.
Mais merci, j'ai dit, on va peut-être par passer la parole à Ouria.
C'est ça, on ne peut pas parler dans les deux.
Merci, j'ai passé très bien. Merci, Janine. J'aurais souhaité vous accueillir. Je vous attendais là-bas en fin de midi. Et la question du travail et la question du lieu, on a échangé des petits mails. Et donc j'étais ex. Donc j'étais.
Allez venir à l'enfer.
Oui. Donc j'étais moi avec quelques étudiants. On regardait en fil de temps à autre pour voir si les collègues arrivaient. Et puis finalement, mais que après coup, je disais à mes étudiants qu'il y avait sûrement quelque chose de l'ordre de l'acte manqué, mais il y a aussi un paresseux qui ne regarde pas le train.
Mais c'est un acte manqué, le paresseux.
Bon, alors c'est un acte manqué. Hein. Alors, on m'a dit que vous êtes présenté.
Oui.
Je ne présente plus jeune d'affluent.
Tu sais, Ouria, moi je trouve ça très intéressant qui est arrivé, parce que ce que je dis toujours à Janine, c'est que quand je la lis, je suis toujours irrité, ça m'est toujours insupportable. En même temps, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais sans arrêt, j'ai qu'une envie, c'est d'être ailleurs que dans le texte que je suis en train de lire, sans pouvoir le lâcher. Et je crois que c'est, ce qui est arrivé là, c'est aussi un des effets de la question, me semble-t-il. Tu vois.
Moi, son texte résonne énormément. Très brièvement, je trouve, parce que j'ai rencontré Janine au cours de mon analyse par rapport à l'histoire personnelle, j'allais dire séminaire, mais très forte. Et donc, je trouve que ces mots résonnent fortement. Et des fois, ce qui était très très intéressant, et là j'ai écouté vraiment avec plaisir parler, non pas du retour du refoulé, mais du retour du clivé. Hein, c'est une expérience extrêmement douloureuse, aussi bien pour l'analysant que pour l'analyste. Hein, c'est vraiment, pour l'analyste, c'est aussi très difficile. Donc là, tu souhaitais intervenir. Donc moi, je vais plutôt parler de l'écriture et de la traduction. Et par rapport justement à la cure et par rapport à l'expérience analytique, c'est là où je trouvais qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce que disait Janine, mais aussi dans ce que Félida a travaillé hein, dans Humains des humains, quand le psychanalyste, face à des expériences constantes de désabri, vraiment désabri, de clivage, de l'inintégrable, il n'a que sa capacité imaginative. C'est vraiment quelque chose d'extraordinairement difficile pour l'analyste. Donc, pour revenir à ce que je disais, enfin, à ce que je voulais, je voulais introduire, donc j'ai fait un acte manqué. Moi, je souhaitais intervenir ou interroger Janine sur la question de l'écriture. Je trouvais qu'elle avait de très belles phrases, notamment quand vous dites un texte l'un seul, hein, c'est de cette façon-là qu'on peut enterrer les disparus, hein, de façon à qu'ils ne restent pas comme ça dans cette espèce de désabri et que nous, on soit dans une espèce de mélancolie. Et vous donnez les paroles de Jean-Pierre Vernon, celui qui a porté un nom et qui a eu celui qui a porté un nom mérite l'acte de funérailles. Et donc, à ce moment-là, l'écriture a une fonction symbolisatrice et symbolisante par excellence. Donc, je reviendrai sur des choses.
Oui, c'est tout à fait. Ce que je voudrais peut-être dire, c'est que lorsque je me suis sentie obligée d'écrire, parce que moi je n'aime pas du tout écrire, même encore maintenant je n'aime pas écrire. Donc c'est en 75 que je me suis sentie obligée d'écrire et que j'ai envoyé mon article au Temps moderne, qui l'ont accepté, c'est encore ce que j'appelle un des effets de la France républicaine, parce que je n'étais pas universitaire, je n'étais pas du tout une personne connue. Donc, ils ont accepté mon article et j'ai publié au Temps moderne un grand nombre d'articles que j'ai mis ensuite dans mon premier livre. Mais quand j'ai commencé à écrire, je n'ai pas pu théoriser ce que représentait mon écriture, je n'ai pu le théoriser qu'après. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'éprouvais le besoin d'écrire, que c'était effectivement comme un linceul. Que c'était comme un linceul, c'est-à-dire qu'il fallait recueillir ça dans une langue qui ne soit pas celle de la vie quotidienne, et qui soit paradoxalement la langue que j'avais apprise à l'école, puisque le français n'était pas ma langue maternelle, mais la langue, disons, de l'expression correcte. Je dis bien l'expression correcte. Je n'étais pas une bonne élève au lycée, à l'école, pour la langue. c'est cette, ce couvert de, par exemple, mon premier livre, je l'ai appelé Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. C'est en fait un, c'est en fait un vers de Nicomède, de Corneille. Le vrai contenu, c'est son sous-titre, un désert, un génocide, le désert de la conscience. Mais j'éprouvais le besoin de le revêtir d'une bonne langue, la langue de Corneille, et de voir l'Arménie à travers Corneille. Je pense que, comme le trauma lui-même n'est pas visible, il faut lui trouver des enveloppements. Et par rapport à, au linceul, je dis parfois, et ça aussi c'est une idée qui m'est venue assez récemment, que mon père a peut-être pu écrire quand il est rentré en France, parce que sa mère avait pu enterrer, inhumer le mort, au risque de sa vie d'ailleurs, hein, au risque du péril de sa vie. Donc il y a eu un premier linceul, si je puis dire, symboliquement. Ensuite, lui a écrit ce texte qui est comme un texte premier. J'aime beaucoup la théorisation de Luba Jorgensen, qui a beaucoup travaillé sur Chalamov et Primo Levi, qui explique bien comment, dans un premier temps, il y a un premier texte qui sort comme ça, qui se déverse chez tous les survivants, et qu'après il faut beaucoup de temps pour qu'un deuxième texte soit écrit. Donc il y a eu l'inhumation du père, l'écriture du grand-père, donc l'inhumation du grand-père que je n'ai pas connu, l'écriture du père, et moi, j'ai d'abord publié ce texte, mais en fait je ressens tout ce que j'ai pu écrire comme une espèce d'enveloppement, d'emballage si vous voulez, pour faire passer la chose. Pour faire passer la chose d'ailleurs très concrètement, c'est que si par exemple au temps moderne je n'avais pas déjà publié 3 textes, il n'aurait pas accepté, malgré l'actualité politique, il n'aurait pas accepté de publier le texte de déportation de mon père, parce que j'avais déjà montré que j'étais capable d'écrire en français. Donc il faut cet enveloppement pour faire passer le noyau traumatique. Et donc, après coup, j'ai compris effectivement, alors ce dernier alors, est à mon avis le linceul par excellence, puisqu'il contient même le texte en facsimilé. Là encore, c'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est l'éditeur qui l'a proposé. Donc, premièrement, il est là, comme en quelque sorte son corps est là, hein, puisque c'est très émouvant l'écriture. Hein. On se dit, mais quelle main a écrit ça ? L'écriture, c'est partie du corps, en quelque sorte. Et donc, là, ce livre est l'exemple le plus réussi, je trouve, de l'enveloppement. Puisqu'il contient, évidemment, un texte de moi, un texte du traducteur, et les réflexions très intéressantes de plusieurs analystes. Bon, je n'ai fait qu'illustrer votre propos.
Alors, par rapport justement à cette question de désabri, de violence, d'extermination qui est doublée d'une autre violence, celle du déni, moi j'étais vraiment très très réceptive et très sensible à ça, et aussi quelque chose que vous dites, que je trouve extrêmement importante, à quel point les ruptures violentes court-circuitent les processus de séparation.
Ah oui.
Et vous dites également aussi endommage, et là je suis vraiment très très réceptive, l'identité sexuelle et culturelle. Et je me disais, endommage l'identité culturelle, ok, et l'identité sexuelle, je suis restée quand même assez, dans un premier temps, assez sceptique, jusqu'à ce que je tombe sur cette phrase là de vous qui dit, c'est justement en tant que différents qui furent exterminés, et la seule différence qui pour eux demeura signifiante ne fut pas celle d'être restée homme ou femme, mais celle d'en revenir mort ou vivant. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort, hein, effectivement, que dans ces rafles, hein, moi j'ai le souvenir de quelques rafles au Maroc, c'est vraiment pas en fonction des hommes ou des femmes, pas la différence sexuelle qui est importante, mais est-ce qu'on est pour ou contre le gouvernement. Et donc à ce moment-là, l'identité sexuelle devient pas simplement secondaire, mais, comme disait Freud, de surcroît par rapport à la guérison.
Oui, oui, je dois dire que, je ne sais pas si je, c'est un à côté, pour moi, j'étais très sensible au fait que, bon, d'abord, les hommes, on les tue. Dans l'histoire, enfin, dans le génocide, on les a raflés, on les a vite tués. Et vite, enfin, on les enchaînait, on les précipitait dans l'Euphrate, ou du haut des précipices, etc. Donc, il restait essentiellement les femmes et les enfants. Et ces femmes-là, la plupart, il y en a beaucoup qui ont été violées, bien évidemment, prises. Mais ce que je veux dire, c'est que la sensation que j'ai eue quand j'étais enfant, en regardant autour de moi les femmes qui avaient l'âge de ma mère ou de ma grand-mère, c'est que toutes ces choses que j'ai apprises par la suite et que vous lisez sur le désir entre un homme et une femme, bon, c'est vrai que c'est une très belle chose, le désir entre un homme et une femme. Mais dans ces épisodes-là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Les hommes violent, tuent, égorgent. Et il y a quelque chose de ça qui reste dans le fait que les survivants, leur propos, leur dessein, c'est de faire des enfants. C'est avec désir, sans désir, le problème n'est pas là. De même que comprendre l'autre, je disais tout à l'heure dans mon exposé, c'est un problème de luxe. Donc le rapport à l'autre, en fait, n'existe pas, puisque l'autre, c'est celui qui vous a tué ou qui risque de vous tuer. Donc il n'y a pas de différenciation suffisante. Et c'est ce que j'appelais, pour créer du lien, il faut créer de la distance, de la différenciation, donc de la différenciation par la culture de l'autre. Voilà, c'est en lisant Corneille, par exemple, que la princesse arménienne Laodis dit « Je ne veux point régner sur votre Bithynie, ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie ». Donc si vous voulez, le charme de la féminité m'est venu par la lecture des classiques, pas par la famille.
On a tous fait un lapsus, c'est fabuleux.
Il faudra après qu'il nous explique son irritation, là.
Ah bah oui. C'est bien que je t'explique toujours.
Donc, avant d'avoir l'explication, bon, on disait dans certains courants de communication, et puis l'autre qui me menait en écoutant, Jamie, dont l'une, voilà, c'est trop personnelle, mais est-ce que tu sais pourquoi tu n'aimes pas écrire? Parce que quand même, c'est une partie très très importante de l'activité.
J'ai horreur d'écrire. Ça marche pas, ce micro. Non, alors donne-moi l'autre qui marche.
Si, il marche. Ah bon. Il faut l'ouvrir.
C'est une bonne question. Ça va, ça, on l'entend là?
Oui.
Et oui, quand on ferme.
Vous avez compris. Alors, je n'aime pas écrire parce que, sans doute, là je fais une hypothèse, parce que c'est un devoir. Par contre, j'aime être ici, j'aime être avec vous. Je dis ça, c'est pas pour essayer de vous séduire, c'est parce que.
Oh, tu peux, hein?
C'est parce que j'ai remarqué que je n'aime pas écrire, je n'aime pas qu'on m'invite à intervenir, alors je dis toujours oui, mais à chaque fois que j'y vais, je suis très heureuse de rencontrer les autres, de discuter avec les autres, d'échanger avec les autres. Je pense que ce non-amour, c'est comme ça que je me l'explique, c'est parce que, ben, il le faut. À chaque fois que j'écris, c'est parce que je sens qu'il faut que je dise ça.
Mais ça va peut-être me permettre de poser une question dont c'est peut-être, enfin, là, au nom de la vieille amitié de plus de 20 ans qui nous unit et des vieilles discussions, et du paradoxe, hein, parce que l'élite Janine me met toujours à mal et m'irrite, mais je dirais que c'est dans le compagnonnage et dans le travail avec Janine aussi qu'à fur et à mesure, j'étais capable de m'approcher de mes propres points d'histoire personnelle traumatique. C'est la première fois que j'ai travaillé sur des questions qui me ramenaient à la guerre d'Espagne et à la guerre d'Algérie. C'était tout de même une invitation à un colloque liée à Janine, et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est la question que je me posais par rapport à ce que tu disais de l'écriture. Si tu te rappelles de vieilles discussions qu'on avait, c'était comment toute ta stratégie, entre guillemets, parce que ce n'était pas une stratégie délibérée, c'est une stratégie que tu peux reconstruire effectivement après coup, impliquait ce que tu disais au début, c'est-à-dire le déplacement, créer des liens au travers de ce déplacement, et ouvrir la distance. Et ce qui me frappait en t'écoutant là aujourd'hui, et j'espère que ça fait source de discussion et pas de... C'est que je me disais, en même temps, actuellement, depuis quelque temps, le déplacement moins grand dans tes textes, ce qui revient au cœur, c'est la question du sexe de ton père. Et dans quelque chose qui pose tout de même pour moi une vraie question, c'est ce que dans la difficulté de l'écriture, c'est que l'écriture a pu survenir à partir du déplacement originel que ça t'avait permis par rapport aux parents, ça te permet au même temps effectivement de te réapprocher, mais avec le risque maintenant d'être d'une certaine façon prisonné par ce texte. Et comment tu vas pouvoir à un moment donné créer de la distance? Et je le pose comme vraie question parce qu'on est tous confrontés à ça, et en particulier tous ceux qui viennent à témoigner, c'est comment ne pas être transformé en témoin professionnel, comment pas devenir le représentant de la chose. Et je trouve que la question que ça pose est centrale et qui est étonnante, parce que c'était très fort ce que tu disais à partir de Chagnan, maintenant que tout le monde est mort. Je ne sais pas si vous entendez la folie de la phrase, maintenant que tout le monde est mort. Hein, c'est vraiment... Non mais je dis, pour si ça n'a pas été entendu complètement, c'est tout le monde est mort, mais attendez, on est là. Pourtant celui qui le dit... Il dit maintenant que tout le monde est mort. Alors ce que je me disais, c'est que si tu veux...
Maintenant que tout le monde est mort, depuis longtemps et que ma fin elle-même
n'est point
si lointaine.
Mais je retenais juste la première partie parce qu'elle me paraît centrale, parce que je me disais, tant qu'il existe des témoins du drame, et qu'on peut être survivant, parce qu'on est les enfants de ces témoins qui justement n'ont pas été tués. D'une certaine façon, est-ce qu'on ne peut pas se confier dans le fait que le trésor, c'est eux qui le portent? Certes, on voudrait l'avoir, paraît-il, ils nous cachent des choses, ils ne nous disent pas tout, les parents font silence. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est protecteur? Tiens, ils auraient ce trésor dont ils nous priveraient. Mais le jour où ils disparaissent, la question c'est est-ce qu'on peut s'approprier des choses? Et en t'écoutant, je me dis, c'est très marrant, parce que c'est une toute autre expérience beaucoup plus banale. Ça me rappelait la phrase de Pirandello qui, quand il n'a pas pu assister à l'enterrement de sa mère, hallucine quelque temps après qu'il est en dialogue avec sa mère. Et la mère lui dit « Mais t'inquiète pas, j'existerai toujours pour toi, tant que tu penseras à moi. » Il lui dit « Mais attends, c'est pas ça le problème. C'est ce que moi j'existe encore si tu ne penses plus à moi. » Et oui. Je me demandais tout de même cet enjeu, quand même dans la douleur, ceux qui tu disais n'ont peut-être même pas conçu leurs enfants par désir, si ce n'est le désir que ça se poursuive.
Oui, absolument. Hein,
mais c'est une façon de porter l'autre extrêmement fort, et je trouve que tout ton trajet porte une question douloureuse, c'est est-ce qu'on peut s'approprier et ouvrir de la distance? Ou est-ce que s'approprier nous rapproche à un tel point que nous menace aussi la fixation? Tiens. Je ne dis pas que tu es prise là-dedans, mais je suis étonné, ayant vu ton trajet depuis 20 ans, c'est qu'autant tu travaillais sur le déplacement et tout, autant ces derniers temps, tes conférences, là où tu es interrogé, tu cites et recites le texte de ton père. C'est extrêmement important, mais au même temps, je me disais, comment fonctionne la distance à ce moment-là? Comme une vraie question, hein, c'est pas du tout une critique, c'est comment s'approcher sans être consumé.
Alors, est-ce que, François, est-ce que ça rejoint cette question que j'avais notée, comment en fait en parler en son nom propre, et comment se définir lorsque le passé a été confisqué, qu'en est-il de ma parole, moi, de sujet? Est-ce que ça rejoint ça, par rapport à cette distance?
Je vais répondre, mais peut-être que Régine veut parler.
Mais non, je voudrais te laisser répondre. D'accord. Et moi, après, je donnerai une ou deux pistes.
Alors, d'abord,
validera ou invalidera.
D'abord, je vais donner sans doute pas de bonne réponse, mais je... Voilà. J'aurais envie de dire d'abord que le travail analytique qu'on fait avec analyste, ou après seul, évidemment, puisque la réflexion analytique se poursuit, bizarrement, ramène de plus en plus au noyau. Il ramène de plus en plus au noyau. Bon. Et comme ce noyau-là, le temps qu'on met à arriver au noyau, le temps de vie s'est passé, on approche également de sa propre mort. Voilà. Alors, l'autre réponse, qui n'est peut-être pas une bonne réponse non plus, c'est que, effectivement,
il y a eu une sorte de concours de circonstances, si je puis dire, qui a fait que j'ai été, entre guillemets, obligée de faire ce dernier livre collectif, qui est effectivement absolument la mise en lumière du texte paternel. Alors, ça m'a été, entre guillemets, imposé, et je reviendrai sur la qualité de la question de Françoise, parce que je trouve bien qu'elle m'ait posé la question pourquoi je n'aime pas écrire. Eh bien, il s'est produit que, lors d'un séjour de travail en Italie, la personne qui m'avait invité a voulu éditer un petit livre, parce qu'elle voulait absolument que mon travail soit connu en Italie. Elle a fait une composition où elle a mis le journal des plantations de mon père, mon texte à moi qui lui avait fait connaître le journal, et puis son texte. Et du coup, il y avait un petit, comme ça, un ouvrage tout à fait étrange qui m'a été présenté. Et cet ouvrage s'appelait, alors c'est ce qui m'a d'abord énormément choqué, il avait été écrit par, je traduis en... Les auteurs. L'auteur était un auteur bicéphale et il s'appelait donc Janine et Bahram Altounian. Donc quand j'ai reçu ce petit livre, j'ai été totalement scandalisée. Comment ça se fait? On ne m'avait pas prévenu, parce que quand j'avais signé le contrat, bien évidemment, le nom de l'auteur n'apparaissait pas, puisque bon, c'était en principe moi ou quelque chose comme ça. Et en regardant de plus près, puisque la bêtise avait été faite, j'ai vu que le livre s'appelait « Se souvenir pour oublier », je traduis de l'italien, et s'appelait « La mémoire du génocide arménien dans le journal d'un père », le génocide arménien dans le journal d'un père et la mémoire d'une fille. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ah oui, c'est intéressant ça, parce que dans le fond, ce livre, c'est tout le processus. » Et à ce moment-là, acceptant cet auteur hybride qui précisément détruit la distance, j'ai voulu, en prenant conseil par d'autres personnes, faire la même chose en France. Ce qui fait que le dernier de mes ouvrages, effectivement, est une sorte de proximité encore plus grande du noyau. Et la simple justification que nous avons trouvée, avec ceux qui me conseillaient, la justification est suivante: cet ouvrage dont le contenu pourrait s'intituler Le génocide arménien dans le journal d'un père et dans la mémoire de sa fille, n'a pu se constituer que par un travail d'écriture qui a nécessité deux générations et plusieurs voix pour voir le jour et s'inscrire dans ses pages. Nous avons retranscrit cette écriture en deux temps en l'attribuant à Varlin et Janine Altounian. Donc j'aurais envie de dire que c'est un petit peu le hasard des choses qui a fait que, pour l'instant, j'ai abouti là. Maintenant, une troisième réponse qui n'en est pas une. J'ai effectivement l'impression que j'ai pratiquement fini mon affaire, que j'écrirai plus. Et la distance, moi je l'ai, vous savez, j'ai quand même des tas de plaisirs dans ma vie où il y a de la distance. J'adore l'opéra, j'adore la chanson française, j'adore faire des randonnées. Pour moi, la distance, elle est là. J'adore discuter avec François Villa, les personnes qui sont là. Mais dans l'écriture, moi, j'ai voulu dire quelque chose. Peut-être que j'ai terminé, j'ai peut-être plus rien à dire.
Alors, est-ce qu'il y a aussi le poids de la petite fille ou de la fille?
Attends, mais moi, il y a un petit peu, parce qu'on... Excuse-moi. Il y a Françoise qui a terminé sa question.
C'était juste une toute petite remarque par rapport à la question de François. La question que j'avais posée, tu nous as dit en même temps que voilà, tu n'aimais pas écrire, mais que tu aimais parler. Et je crois que dans cet amour de la parole, de nous transmettre du monde de choses, il y a quelque chose de cette nécessaire infidélité.
Ah oui, oui, c'est parce que dans la parole, il y a du plaisir.
Il y a des autres.
Je voudrais dire quelque chose à ce sujet.
Oui, du plaisir, oui.
Moi, j'ai une idée. J'ai une idée à propos de ce que Janine décrit comme une délégation à une mission. Les thérapeutes familiaux parlent de mission, de délégation. Et son œuvre en témoigne. Et de cette mission qu'elle a reçue, elle dit il fallait. Et j'aime pas écrire parce qu'il faut. Il faut, c'est qu'est-ce que c'est que cette mission qu'elle aurait reçue de transmettre, et en même temps de faire un travail psychique pour elle. Et ce que je trouve intéressant, moi aussi je me suis demandé, je me suis dit, puisqu'elle a commencé à parler dans son texte de mémoire du génocide arménien, donc dans le dernier ouvrage auquel j'ai participé, elle dit, je crois, page, je ne sais pas quelle page, mais moi aussi je vais faire des actes manqués, page 144, tu dis que toute ton écriture semble vers ça, je vais citer exactement. Tu dis, mon travail d'écriture n'a été depuis bien des années une tentative de réception et de transmission de ce récit paternel en tant que paradigme des innombrables témoignages, souvent plus insoutenables, de son histoire. Donc effectivement, on peut se demander, maintenant que tu t'es approché au plus près et de ce noyau, de cette existence au brûlant, comme dit un auteur qui nous est cher à tous les deux, Jean Améry, vous avez fait vous rencontrer, je ne vais pas vous raconter ma vie avec Janine Insignan, car chacun pourrait vous raconter sa vie avec Janine Insignan. Il y en a des plus longues, il y en a des plus anciennes. C'est intéressant d'ailleurs. C'est toujours autour d'autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut effectivement se demander, et en souriant, des gens m'ont dit, des amis, ou des gens qui t'aiment beaucoup m'ont dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire Janine maintenant? Sur qui elle va être? Comment elle va continuer?
Peut-être que je ne vais pas continuer.
Alors, moi, je ne sais pas si tu ne vas pas continuer, ce serait dommage que tu ne continues pas, mais tu parles de la dimension plaisir et liberté. Et je pense que cette dimension plaisir, qui est si absente de la survie, qui est si absentée dans le labeur, et ton œuvre témoigne d'un labeur. D'ailleurs, tu parles des mains des survivants, tu parles du labeur, et moi j'ai souvent l'image des gens qui écrivent comme toi, rivés à leur ordinateur, comme la génération d'avant, les Juifs et les Arméniens étaient ailleurs, rivés à leur machine à écrire, ou à leur atelier d'orfèvre, hein, pour leur... ils étaient rivés à leur machine à coudre, et à leur atelier de bijoutier, et au fond, ce que font leurs enfants, en écrivant, en enseignant, et là j'y vais, il y a des moments où moi je me dis devant l'ordinateur, je ne suis pas comme mes parents parce que mon père était déjà traducteur, c'est encore un lien de plus, mais comme tes grands-parents, rivés dans ce labeur. Et je trouve que ce labeur, tu l'as assumé avec beaucoup de conscience, beaucoup de talent aussi, mais c'est un labeur qui t'a, c'est le travail analytique, le travail de la traduction, et le travail, j'allais dire, tu es un fossoyeur joyeux. Alors, je me suis dit, je vais dire ça, mais comme tu as cité Cinquième et ce film,
oui.
Et que tu as parlé d'une mémoire, comme ça, joyeuse,
oui.
D'une douleur joyeuse, eh bien, je trouve que tu fais un travail sans cesse d'inhumation, mais d'exhumation des restes, de remembrement. Ici, tu as parlé de Rwanda, eux, ils le font concrètement, et c'est très important, c'est-à-dire ils exhument pour inhumer, ils exhument des fosses où leurs proches ont été coupés et jetés pour pouvoir les inhumer. Et le Rwanda, tu es allé, ça t'a beaucoup touché, comme moi. Et moi, je trouve que chez l'ami, ce qu'on trouve justement, c'est cette douloureuse joie de vivre. Et je me demandais de ce travail à la fois d'artisan des mots, parce que moi, je suis souvent frappée en lisant ces livres, de la précision absolument remarquable de chaque mot. Ils sont ciselés, tes mots. D'ailleurs, quelquefois, ils me désespèrent parce que je me dis, ok, elle l'a dit, maintenant, comment moi je vais le dire? Je ne peux pas le dire parce que je fais le latin. Et les étudiants savent ici que l'œuvre de Janine tient une part importante dans un des cours que je vous fais. Donc ce travail d'artisan, d'orfèvre, hein, c'était orfèvre les Arméniens, il y a eu beaucoup d'orfèvres, d'assemblage, tu veux répondre tout de suite ou...
Je précise que Altoun, c'est l'or.
Bon. Alors Altoun, c'est l'or. Ce travail intransigeant de précision, de ciselage, d'affinement, qui est aussi le travail que fait l'analyste et l'analysant dans préciser, affiner, trouver les mots. Bon, mais c'est un travail, celui-là, au fond, qui ne se termine jamais. Je me disais, est-ce qu'on meurt après la fin d'une analyse? Non, en général, on espère qu'on ne meurt pas, mais qu'on va commencer à vivre un peu plus libre, un peu plus affranchi du labeur, je pense, de l'écriture. Alors peut-être que tu vas trouver une écriture aussi belle, mais moins missionnée. C'est-à-dire maintenant tu as vraiment enterré ton père avec l'aide de quelques camarades qui ont porté le cercueil.
Absolument.
Mais oui, qui l'ont enveloppé. Je pense vraiment, moi je peux dire que quand j'ai dû travailler sur ce texte, j'ai été saisie d'une gravité de la mission et de l'importance. C'était pas n'importe quoi. Je devais aider. J'étais une de celles qui était garante de cette inhumation, et que ces linceuls soient bien faits, bien tissés, au mieux. C'était une responsabilité commune. Et je pense que, étant donné ta joie, et on s'est déjà vu plusieurs fois, on disait toujours dans les forums, qui en général traitent des choses joyeuses qui nous occupent, j'ai aussi une offre de maths et autres volontés, et pourtant, on pleure quelquefois, ou on fait pleurer les gens, mais on rit beaucoup. Ça n'est pas de la mortification. Et je pense que quelque chose, justement, de ce travail sérieux, précis, traductrice, analysante, écrivain, est un travail, mais aussi te permet, moi je crois, et c'est ça, d'accéder à une vraie liberté, à une joie que tu as, et peut-être de la libérer une fois la dette acquittée. Une fois les ancêtres dûment enterrés dans le linceul des nombreux mots que tu leur as consacrés et que tu as demandé aux autres de consacrer, je pense, je ne suis pas très inquiète, je me dis que tu vas trouver la créativité pour continuer quelque chose et trouver peut-être ce plaisir qui leur a manqué, qui t'a manqué avec eux. Et d'ailleurs, tu as déjà ouvert des pistes, parce que tu parles plus, par exemple, des pistes, je laisse tout de suite, la nostalgie. Tu parles de la tendresse empêchée. Mais je pense que ça, c'est des tas de choses qui ne sont pas seulement vers l'arrière, mais qui sont encore des tas de choses. Voilà, je me tais. Bon. Après t'avoir traité de fossoyeur joyeux.
C'est vrai que je suis très reconnaissante à Françoise d'avoir souligné mon plaisir à la parole. Parce que quand vous parlez, j'ai plein de choses à dire, donc je ne suis pas du tout j'ai plaisir. Alors, donc des petites notations. D'abord, mon père n'était pas du tout dans la plainte. C'était un bon conteur. Et je pense que la petite fille que j'ai dû être, il ne me parlait pas, parce que bon, les petites filles, tout ça, c'était avec les mamans, les enfants n'occupaient pas les pères. Mais enfin, je l'entendais raconter à ses amis, c'était un bon conteur, il prenait son temps et il n'était pas dans la plainte. C'est quelqu'un qui avait pas mal de plaisir dans la vie, plus que ma mère, tiens. Deuxième notation à propos du il faut. Bon, je précise quelque chose. Ce il faut n'est pas un il faut du surmoi, du devoir. C'est un il faut de revanche. C'est un il faut de ah, quand j'étais enfant, quand j'étais élève, quand j'étais. Je ne pouvais pas dire, je ne savais pas dire, je n'avais pas les mots pour dire. Et bien maintenant, il faut que je dise. C'est un il faut par rapport à moi, qui n'est pas sans rapport évidemment avec ce qui m'a été transmis. Et si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais, pour illustrer ce je ne pourrais pas dire, vous lire ce passage qui en général intéresse beaucoup les gens, que j'ai écrit, c'est dans mon deuxième texte qui s'appelle Une arménienne à l'école. Je me trouvais comme, donc je l'ai écrit en 1977. Je me trouvais comme dans un cauchemar insolite, voire impudique, dans un lycée de classe préparatoire au bureau de la surveillante générale, entre celle-ci et mon père. Jusque-là, je m'étais arrangée au cours de ma scolarité pour esquiver cette insoutenable confrontation entre l'école laïque française et ce rescapé du désert dont je portais le nom, l'unique grand homme pour moi, mon père. Ma mère ne suivait guère ses fonctions de représentation où il ne restait plus rien à représenter. Or, le règlement était ici impératif. Mon admission en classe de lettres supérieures dépendait de cette épreuve, au cours de laquelle je devenais nécessairement l'agent d'un triple désaveu. Il n'y avait d'ailleurs des preuves que pour moi. Pour la surveillante générale, cet homme parlant mal le français, dont l'air imposant et déplacé, les manières raides, ignorait les usages. Cet intrus était nullement une recommandation rassurante pour une future élève des classes de concours. Je ne crois pas qu'elle fût ce qu'on appelle raciste. Mais la tradition et le règlement intérieur n'avaient pas prévu ce genre de candidature. Pour mon père, cet employé de bureau rabougri qui causait pour perdre son temps de choses incompréhensibles en ce bas monde, le niveau en version latine, la motivation de la candidate, le nombre de mentions obtenues, cette femme sans saveur ne gagnait rien en lui. Il n'était pas là. Pour moi, mon destin était assujetti à son pouvoir, au verdict qu'elle allait prononcer. Devant elle, je devais me désolidariser de la conduite cavalière de mon père. Dans le regard de celui-ci, je lisais le dédain de me voir m'égarer dans des voies futiles et répudier les mères illettrées mais sages et avisées de son orient lumineux. Quant à moi, frappé de mutisme, je ne pouvais exprimer à cette femme combien, malgré mon incapacité à habiter ce carrefour sans rencontre, j'aimais les auteurs, ses pères, plus qu'elle peut-être, que j'étais pleine de gratitude pour ses semblables qui m'avaient appris à les lire et qui m'en avaient nourri en tant de famille. Donc je pense que mon « il faut » c'est un « il faut » de colère.
Est-ce que la salle a des questions?
Ben, c'est pas bien, hein. Des remarques.
Est-ce que pour se dégager, c'est mieux d'aller voir, par exemple, je parlais de la race, moi je parle de notre race, est-ce que ça serait bien d'aller voir ce film, par exemple, sortir de l'ombre?
Le film qui vient de sortir, là. Ah, moi, j'ai pas été contente de voir ce film. Je trouve que c'est trop facile. On extermine les gens, on fait des rafles, puis après, on fait un film. Mais, excusez-moi, mais c'est ma réaction d'indignation. Mais peut-être que dans l'histoire de chacun, oui, peut-être. Je ne sais pas, là je ne suis pas... je n'ai pas vu ce film.
Mais si ça permettrait pas de se représenter la chose que vous demandez.
Oui, peut-être. Moi, j'ai vu, par exemple, le mauvais film Hôtel Rwanda. Enfin, on a dit que c'était un mauvais film. Je connaissais évidemment pas mal de choses sur le Rwanda. J'avais fait des lectures. Mais ce film m'a fait quelque chose. Alors que c'est un mauvais film, entre guillemets, cinématographiquement. Donc, peut-être que La Rafle, c'est aussi un mauvais film, mais qui peut avoir un impact important dans l'histoire de quelqu'un. Oui. Oui. Tous les moyens sont bons, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut répondre mieux que ça?
Moi, j'ai juste... Il me semble que la question que vous posez, moi, je n'ai pas vu ce film, je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'étais confronté à la question que pose le roman de Hanel, c'est ça, hein?
Oui.
Et je trouve qu'il y a une question qui va commencer à surgir et qui est très importante, comme tout le monde est mort, c'est comment ceux qui n'ont pas été prêts, des témoins vivants du drame, vont, même dans l'absence de ce que transmettait ce silence, devoir inventer et imaginer quelque chose qui était rendu par ce que faisait Jamie. Pourquoi faut-il faire circuler des livres pour savoir la carte de l'Arménie? Parce que l'Arménie a disparu et qu'il faut la rendre, la réincarner, la rendre présentable. Donc je crois qu'il y a quelque chose là de la disparition des témoins et de la parole qui font que, par exemple, comment ça va vivre pour les générations suivantes, c'est une vraie question. Il y a quelque chose qui est... C'était une transmission empêchée, il y avait du silence, mais il y avait des survivants. Et le statut de la mémoire n'est pas le même. Moi, j'étais très sensible pour ça au début de ta conférence, parce que tout à coup, ça, je me suis dit, mais c'est vrai, s'il n'y a plus de témoins vivants, que devient l'événement et comment on va pouvoir le rendre...
Je pense que le génocide arménien n'a pas été reconnu.
En plus.
C'est-à-dire encore, on est tous reconnus, l'hommage ne circule plus, mais qu'est-ce que ça va devenir là, alors qu'il n'y a pas de reconnaissance
par l'État qui l'a perpétré.
Ouais. Mais je pense que la question de s'il faut voir la race ou pas la race, moi j'avais invité, je ne suis pas allée le voir parce que j'en avais pas envie, mais c'est plutôt la question qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire ou de faire, et je pense que là on est effectivement. À l'ère où les témoins du génocide arménien
parce que tous sont morts, les témoins directs. De la Shoah, ben, ils sont en bonne voie.
Oui.
Évidemment, il y a une appropriation, il y a eu des tas de films déjà, il y a eu Benigni qui a déchaîné les polémiques, sans parler du Charif de Littel, mais ça, ce sera un autre débat, cher entre guillemets. C'est-à-dire, de toute façon, il va y avoir une appropriation, transmission. Et ça, c'est la créativité. S'il y a un pacte qui lie les gens, je pense que c'est surtout lié au pacte éthique de ce qui peut produire, enfin de ce que les créateurs vont produire, de ce qu'ils ont envie de dire, de comment ils s'approprient une partie de la mémoire et comment ils la transmettent pour la transmettre. Et ça, on peut pas déclarer, nous, qu'il faut voir la rafle et qu'il faut faire le film la rafle ou pas. Et quelquefois, même le feuilleton Holocauste, vous savez, le feuilleton que vous n'avez pas connu, américain, a été l'ouverture à l'époque, on tasse maintenant, pour une génération en particulier pour les Allemands, a été ce feuilleton télévisé pour une génération d'Allemands, de jeunes Allemands, le début d'un travail. Alors on peut pas décider, là c'est plus les critères d'éthique, etc., c'est plutôt un pacte. Au niveau du pacte, que moi j'appelle testimonial et éthique, qui fait qu'on fait l'homme et si on s'approprie, ben ça c'est ça, ça fait partie de l'héritage de notre culture, et chacun qui n'y a pas été, qui n'appartient peut-être même pas au groupe, et surtout pas, se l'approprie, c'est pas l'histoire. Les meurtres de masse et les génocides ne sont pas que l'histoire des groupes qui les ont subis, au contraire, même, à mon avis, sont l'histoire de l'humanité, c'est elle qui doit s'en emparer. Alors celui qui s'en empare pour faire par exemple la rafle, et bien pour certains, je suis sûr que la rafle, ça va être très important, même si c'est un mauvais film, j'en sais rien d'ailleurs, je l'ai pas vu.
Vous vouliez dire quelque chose?
J'ai une question en fait qui est un peu différente, mais c'est une question sur les langues.
Sur
les langues. Je vois que vous êtes né en 34, vous avez en fait choisi, vous étiez proche allemand, et donc vous avez choisi la langue allemande. Vous avez choisi, donc après la Deuxième Guerre mondiale, donc les Allemands ont aussi tué des milliers de Juifs, donc ils ont nommé aussi un génocide, voilà. Et moi qui ai grandi avec quatre langues maternelles, dont l'allemand aussi, je me pose la question de comment est-ce que ces langues, pour vous, vu que le thème de l'Empire c'est le traduire et le commun, en quoi est-ce que ces langues vous ont permis de traduire, d'élaborer un combat, ou est-ce que c'était un élément?
Oui, c'est une question intéressante parce que ça me... Voilà, d'abord au niveau anecdotique, si vous voulez, quand j'étais lycéenne, on m'avait dit, mes parents ne s'occupaient pas de ces choses-là, l'institutrice avait dit, pour rentrer dans une classe d'allemand, c'est les meilleures classes. Donc j'ai fait de l'allemand. J'ai fait de l'allemand et j'adorais l'allemand. J'adore l'allemand. Donc j'ai commencé à lire Freud évidemment dans la langue originale, et quand on me pose de but en blanc cette question, je dis moi j'aime l'allemand des juifs allemands, j'aime l'allemand de Freud, j'aime l'allemand de Kafka, mais j'aime aussi l'allemand des cantates de Bach, des Lieder de Schubert, j'adore l'allemand. Bien, alors maintenant le lien entre ce plaisir à l'allemand et le trauma, il apparaît un peu dans un des livres qui n'a pas été cité ici, que j'ai écrit en rapport avec mon travail de traductrice, qui s'appelle L'écriture de Freud, traversée traumatique et traduction. Ce qui me frappe, c'est que, surtout quand on traduit d'une langue qu'on aime beaucoup, on est très sensible à ce qui ne passe pas et ce qui ne peut pas passer. Mais en le traduisant, on s'approprie ce plaisir-là, puisqu'il ne le passe pas. Eh bien, je dirais que c'est la même chose pour ce qui a été transmis dans le trauma. Il y a, justement, dans la scène du film qu'évoquait Régine, j'ai vécu des scènes comme ça, où il y avait toute une salle arménienne qui mangeait, qui chantait, etc. Et il y avait en même temps une profonde tristesse. Or, ça, je trouve que ça ne peut pas passer dans ce que je vis dans ma vie actuelle. Mais c'est la traduction permet de sentir corporellement ce qui ne peut pas passer et qui ne peut passer que de façon... Parce que quand même, je vous le dis, par exemple, je l'ai écrit. Donc, si vous voulez, c'est, ça permet de trouver des moyens de faire passer implicitement quelque chose qui ne peut pas passer explicitement. Je pense que pour moi, c'est le fait de la capacité à être présent dans deux systèmes linguistiques. Par exemple, quand j'entends parler arménien, moi qui parle très mal arménien, c'est pour moi déchirant. Il y a une déchirure. Je parle mal l'arménien parce que mes parents n'étaient pas alphabétisés, ils étaient turcophones. Il y a dans le rapport à la langue un élément de plaisir, mais en même temps de douleur, je ne répondrai pas vraiment à votre question, qui est en rapport avec le trauma.
Pardon, juste pour aller dans ce sens-là, tu parles de ça encore un peu plus loin peut-être que ce que tu viens de dire dans le numéro de France TV sur pourquoi le fanatisme. Il y a un entretien avec
Hélène et... Ah oui, je parle de ça.
Voilà, oui. Et Hélène, vous vous lâchez de dire, pensez-vous pas que le polyglottisme, le travail de traduction peut être considéré comme un travail de symbolisation à visée anti-fanatique. Et tu réponds à une chose intéressante, ce n'est pas tant le doute que l'impossibilité de dire on ne peut pas dire cette chose-là, donc il faut trouver les moyens de la contourner. Quant au rapport entre symbolisation et traduction, il y en a effectivement un, on ne peut traduire que ce qui a été symbolisé. Ah, première chose, et puis ensuite, juste après.
Oui, mais figurez-vous que j'ai trouvé tout. Moi, je n'ai pas écrit, mais quand je me relis, je me dis, mais comment il a pu écrire une chose pareille, j'aurais jamais pu le faire.
Et alors, il y a ça, tu mériterais, voilà, c'est une infinité déjà. Et ensuite, tu ajoutes, c'est à ce travail-là, en deux temps, que sert la cure. Hein, avec cette idée que la cure aurait ces deux temps. Symbolisation, puis traduction et symbolisation, ou un même procès.
Mais justement, je voulais ajouter ma réponse, que c'était un peu ce qui se passait dans la cure, et j'ai fait allusion tout à l'heure à ça. C'est-à-dire que, pour moi, le problème du transfert, ce n'est pas d'imaginer que l'analyste comprend ce que vous dites, mais c'est le problème de voir que il se passe quand même quelque chose qui fait que, bien que étant fantasmé comme ne pouvant pas comprendre, n'empêche qu'il se crée du lien de parole, parce que quelque chose a été symbolisé. À travers la différence radicale de l'univers entre l'analyste et l'analysant. Il y a quelque chose de l'ordre d'un miracle dans le transfert quand il marche bien, à cause de ça. Et ça rejoint cette affaire-là, je trouve.
Il y a une personne qui a travaillé sur la traduction, que vous connaissez, qui s'appelle Corinne Atlan.
Qui s'appelle ?
Corinne Atlan, qui a écrit notamment un petit texte, un très petit analyse, et un petit texte qui s'appelle Entre deux mondes, sur le rôle de la traduction, son lien avec le monde.
Je voulais aussi dire tout à l'heure à propos du travail. Tu parlais de la machine à coudre, etc. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis une personne assez souvent déprimée. Et il m'arrive d'aller voir mon ancien analyste. Et il me dit toujours, est-ce que ça vous empêche d'écrire ? Oh, pas du tout. Je dis, mon magasin marche bien. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture et tout ça, c'est la suite, effectivement, du travail des parents.
Et dans la survivance, j'écris toujours dans la langue de l'autre. Parce que tout à l'heure, vous avez commencé à parler de l'arménien, vous disiez que vous ne parlez pas très bien l'arménien. Et je pense que choisir la langue de l'autre, ce n'est pas simplement parce qu'on parle mal l'arménien, mais c'est peut-être cette juste distance ou cette distance dont nous avons besoin pour pouvoir parler de ce noyau qui est quand même le corps du père.
Oui, non, impossible de raconter ces choses-là. Non, évidemment, même si j'étais très lettrée en arménien, ce serait un enfermement total, donc ça n'est possible que dans la langue de l'autre, bien évidemment. La langue de l'autre, oui, d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que la langue de l'autre, c'est une forme de carapace, pour moi, que je dois bien cibler, à l'intérieur de laquelle se trouve quelque chose d'informe. qui serait le traumatique.
Ça me faisait penser en fait au rêve de Primo Levi qui essaie de raconter ce qu'il a vécu. Et parce qu'il est entendu, il ne peut pas le dire. Et ça me fait penser à ça et à votre plaisir de dire les choses et d'être entendu en vous rencontrant.
Oui, 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 oui. Et je voulais dire aussi que, oui, je vous remercie, je connaissais la première partie du rêve dont vous parlez, mais donc il y a aussi, il dit, le plaisir qu'il a quand il est entendu. Il y a cet aspect-là.
Son rêve qui est plutôt un cauchemar, c'est
que oui, oui, oui.
Il peut être entendu, il ne peut pas dire. Et que quand il dit, il n'est pas entendu. Il y a les deux versions.
Ah oui, oui.
Et ça fait penser à ça dans cette langue de l'autre, et dans le plaisir aussi de pouvoir sortir de... dans une langue de l'autre et d'être compris par l'autre.
Oui. C'est très, très émouvant.
C'est dans le déni de ce qui s'est passé.
Oui, mais attendez. C'est très, très émouvant d'avoir le sentiment que l'autre vous comprend alors qu'il est radicalement différent. Et je dois aussi vous dire qu'un des plaisirs que je peux avoir dans mon travail, c'est de rencontrer ceux qui viennent d'une histoire traumatique totalement différente et pourtant chez qui je trouve les mêmes réactions, les mêmes expériences. Et j'ai fait une sorte de nomenclature, vous savez, de comment est-on, qu'est-ce qui fait qu'on est sensible à mon écriture. Alors bon, il y a évidemment quand on est juif, pied noir, exilé, alsacien, breton, fils de résistant, fils de protestant, petit-fils de galérien, fils d'enfant de prisonniers politiques, de torture. Et on se dit, mais l'humanité est pleine d'horreurs, et le fait de pouvoir parler avec les descendants, les porteurs de ça, donne paradoxalement le sentiment que ben, la vie est quand même bonne puisqu'on les rencontre.
Mais pour un peu de belle vie, ben, je ne sais pas si on peut conclure, je reviens juste ce que disait Régine, le joyeux fossoyeur.
Ah oui.
Donc moi je trouve en vous disant tout à fait Michel de Certeau quand il disait enterrer les morts permet de fixer une place aux vivants.
Oui, oui, c'est ça.
Et je trouve que votre texte, vos textes, sont vraiment une belle affirmation de la vie, un bel hommage, un hymne à la vie. Justement, aller de cet événement, non-événement, à une expérience subjective qui permet justement de psychiser l'événement. Et donc, en cela, c'est vraiment un bel hommage à la vie, et un triomphe même de la vie.
Oui, oui, non mais vous savez, Régine faisait allusion à ça tout à l'heure. Ah oui, Régine faisait allusion à ça tout à l'heure quand elle parlait de la couture, du tailleur, etc. Moi j'ai beaucoup parlé dans mes textes des mains, de ce que font les mains des survivants. Et c'est vrai que j'ai un affect d'amour extraordinaire pour les broderies, les dentelles, les tricots, toutes ces choses que font ces femmes. Ce sont des femmes qui sont sorties de l'horreur et qui trouvent du plaisir et du rêve, parce que je crois qu'il y a du rêve dans les capacités à faire des festons et puis des choses comme ça. Or, j'avais malgré tout des... Je vais quand même vous lire... Je vais vous lire ça. Attendez. Est-ce que quelqu'un pourrait me repasser... que j'aime bien cette affaire, les chemins d'Arménie que j'ai fait circuler.
Puis la survie.
Il arrive. Je voudrais vous lire un joli texte. Excusez-moi, je suis en train de faire des compliments à ce que j'ai écrit. Je dis ça parce que beaucoup de gens l'aiment bien. Et vous allez voir les femmes de grand-mère là. Ce texte s'appelle Les trois vivants. Les trois vivants. Je trouve que c'est un joli texte. Du vivant terrifiant qui, en 1915, promulgua pour les miens les édits de la déportation vers l'épouvante et la mort, jusqu'au vivant de l'analyste, dont ces textes ont pour moi, de 75 à 88, constitué comme des résidus à expulser, à publier, m'ont acheminé après coup, par leurs effets inéluctables, meurtriers et salvateurs, les récits, larmes et oraisons du divan merveilleux de grand-mère. Les douceurs conviviales, les petits cafés, les tricotages, travaux d'aiguille et raccommodage avec la vie, les accueils familiers et nostalgiques de son séjour des mille et une œuvres de survie. Là où c'était à jamais blotti mes tristesses d'enfant, mes espoirs d'évasion, mes rêves d'un ailleurs plus léger, d'un ailleurs me souriant, me parlant, parlant à moi et non plus en moi. Ce berceau ancestral trône dans ma mémoire, recouvert de ses coussins et quilines, emblème de toutes les chaleurs laissées au pays, vénérable et intime, austère et rutilant, protecteur et secret. Il me rappelle étrangement, et à deux fêtes, sur ma route, appelé en contrepoids, celui tout aussi occidental de la terre grasse.
Ah bon?
Normalement, oui.
Donc, c'est le divan de grand-mère qui me rappelle étrangement, il y a deux fêtes sur ma route, appelé au contrepoint celui tout aussi peu occidental de la Bergasse, dont la reproduction dans la salle d'attente des séances reviennent, m'invite à tant de fois au lointain de l'inconscient, au loin chez grand-mère, à l'orée de sa maison de Boursa ou d'Anne Fraîche, au-delà, là où j'entends qu'elle m'avait transmis ses paroles d'une autre reine. Il s'agit là de Corneille qui arrive. « Pour garder votre cœur, je n'ai pas eu le maître, car hors de l'Arménie, enfin, je ne suis rien. Ces avertissements pour m'accompagner dans la cure, préparez-vous à voir vos pays désolés, préparez-vous à voir par toute votre terre ce qu'ont de plus affreux des fureurs de la guerre, des montagnes de mort, des rivières de sang. Cette quête d'un livre à l'autre, je ne veux point régner sur votre bikini, ouvrez maintenant les chemins de la route. » Je voulais dire à propos de la traduction, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour moi, Freud, ce n'est pas un Allemand, c'est un Juif autrichien. Et je fais sûrement un transfert, c'est quelqu'un qui connaît la persécution, et si on cherche bien dans son œuvre, on la voit. Donc pour moi, il y a ça aussi qui joue. Et je suis toujours très scandalisée lorsque je vois que dans certains analystes, cet aspect est pratiquement occulté. Juif, sa famille vient de plusieurs transplantations. Tout le monde connaît l'épisode qu'il raconte dans le rêve, l'interprétation du rêve, où son père lui parle de l'antisémitisme qui régnait à son époque. Et quand on pense que ses sœurs ont été gazées, bon ben voilà. Me revoilà au noyau.
Bon. Merci. Merci, Janine.